Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 104e épisode, j'ai discuté pendant plus d'une heure avec Juliette Keff, la cofondatrice de Vert, un média indépendant d'actualité en ligne sur l'écologie. Juliette est normande, a des parents professeurs et commence sa carrière professionnelle au sein d'un cabinet d'expertise dédié au comité d'entreprise. Son rapport à la terre reste ancré en elle et elle décide de tout quitter pour se lancer dans l'écriture et dans le milieu du journalisme. Écrire, ça l'intéresse. Écrire sur ses convictions et ses valeurs, ça l'anime. En janvier 2020, elle lance Vert, le média qui annonce la couleur, avec son associé Lou Espaglière, avec seulement 1000 euros en poche, mais une véritable envie de se démarquer en mettant l'écologie au cœur de leur contenu. Leur mission, donner les clés pour comprendre les sujets liés à l'écologie. Vert fournit des chiffres, des définitions, des graphiques ou des conseils de lecture pour que chacune et chacun puisse disposer des bases afin de mieux se saisir des enjeux de la crise climatique et entrevoir des solutions. Financés intégralement par leur communauté et par les dons des engagés qui font vivre leurs médias, ils ont conquis plus de 40 000 personnes. Entre l'écriture d'un roman, son rapport avec les médias traditionnels, la création et le développement de son média, Juliette s'est confiée à moi sur son aventure. Un grand merci à elle pour cet échange hautement qualitatif. Avant de vous laisser avec cet épisode, n'oubliez pas, et c'est très important, de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et de partager l'épisode à votre réseau. Prenez soin de vous, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Juliette Keff, qui est la cofondatrice et présidente de Vert, le média qui annonce la couleur. Salut Juliette, comment tu vas ?
Salut François, ça va très bien en ce début d'année 2023.
Ouais.
Meilleurs vœux d'ailleurs.
Exactement, meilleurs vœux, très bonne année à toi aussi. Vert, c'est un média sur l'écologie qui a été créé fin 2019, début 2020, si je ne dis pas de bêtises. C'est un super média, très très cool. On aura l'occasion du coup d'en discuter pendant cet épisode. Et moi, je commence à chaque fois mes podcasts sur le parcours. Et ma première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ?
J'ai grandi dans une famille de profs. J'ai grandi pendant 10 ans dans la campagne normande. Et après, mes parents ont déménagé à Lyon. Donc j'ai eu un parcours de la campagne à la ville, centre-ville. Et après, j'ai poursuivi mes études à Lyon. Et j'ai fait différentes expériences à l'étranger aussi, en Argentine, où j'ai fait une année d'échange universitaire quand j'étais à Sciences Po Lyon. Et également un stage à Bruxelles, voilà, avant de m'installer à Paris, où je suis depuis 5 ans.
Qu'est-ce que toutes ces expériences t'ont permis d'apprendre, en fait ?
J'ai déjà une sensibilité à l'écologie qui, je pense, vient du fait que j'ai grandi ces 10 premières années à la campagne. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup imprégné. Dans ma famille maternelle, si on remonte à quelques générations, il y avait des agriculteurs, donc voilà aussi un rapport à la terre, certaines valeurs qui se sont transmises aussi dans cette famille. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, je pense, a distillé un peu des traces dans ma vision du monde et justement dans l'importance en fait de remettre de la place des questions écologiques dans la marche du monde, quoi. Parce que aujourd'hui, on a tendance à beaucoup décorréler effectivement la façon dont on voit l'entreprise, dont la société fonctionne avec les questions écologiques, alors que je pense que c'est fondamentalement totalement imbriqué. Et après mes études, j'ai eu différentes expériences professionnelles qui n'étaient pas forcément liées à l'écologie. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet d'expertise pour les comités d'entreprise. Donc en fait, si tu veux, j'allais dans des grosses boîtes, des petites boîtes, du secteur de l'industrie, du secteur de la presse, du secteur des services, enfin des entreprises très différentes, et je faisais des audits sur la politique sociale et les conditions de travail des gens dans les boîtes. Ça m'a permis de voir pas mal d'entreprises différentes et ça m'a donné aussi effectivement une bonne vision un peu de l'écosystème des entreprises. Tout avait plus de 50 salariés, donc il y a un certain nombre de choses qui ne se retrouvent pas dans les petites entreprises comme celles que je dirige actuellement. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné une bonne expérience du monde entrepreneurial. Et également, j'ai pu être en espace de coworking aussi, donc voir pas mal de startups qui se lançaient. Donc ça aussi, ça a imprégné un petit peu ma vision. Sachant que moi, j'avais jamais vraiment pensé à lancer une entreprise. Hein, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas quelque chose voilà, où je me suis dit quand j'avais 10 ans, tiens, je vais lancer ma boîte. Enfin, vraiment pas du tout. Hein. Moi, je suis vraiment d'une famille de profs et de fonctionnaires. Donc j'étais plutôt destinée à avoir une carrière où voilà, j'entre dans un des ministères de l'État, type aux affaires intérieures ou aux relations internationales, et puis je gravis les échelons progressivement. Et en fait, à la suite de mes études, j'ai vachement déconstruit cette vision un petit peu carriériste d'une carrière qui doit être en permanence, avoir toujours un poste supérieur l'un après l'autre, etc. J'ai totalement déconstruit ça et je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Du coup, ça a été une réflexion pendant les 4 ans où j'étais dans ce cabinet. Je me suis dit, bon, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et la réponse, ça a été, j'ai envie d'écrire. Donc, en fait, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté ce travail dans le cabinet d'expertise pour écrire un roman. Ça a été une grande aventure, autre qu'entrepreneuriale, mais une grande aventure aussi. Pendant 18 mois, j'ai écrit un roman sur une photojournaliste des années 50. Et c'est elle aussi qui, pas à pas, m'a guidée finalement vers le journalisme, puisque j'ai un peu travaillé finalement avec elle. Hein, quand on travaille sur des personnages, bah, finalement, c'est un travail aussi quasiment comme si on avait un collègue. C'est assez marrant. Donc, j'ai écrit ce roman qui n'est pas publié, mais qui est toujours dans mes tiroirs et que je compte bien sortir un jour.
Génial. C'est sur de la fiction, sur l'écologie
En fait, c'est surtout un roman biographique sur cette photojournaliste américaine qui bossait pour le magazine Life, qui en fait, dans les années 50, était un peu le précurseur de Paris Match, c'est-à-dire un magazine uniquement sur les photos, mais pas le côté people. Enfin, il y avait un petit peu un côté people, mais c'était aussi beaucoup de reportages à l'étranger, par exemple. Et Lisa Larsen, cette photojournaliste, faisait beaucoup en fait de reportages à l'étranger. Donc, elle allait dans les États d'Europe de l'Est. Ça a été une des premières journalistes à retourner en Mongolie dans les années 50. Et du coup, moi, j'ai un peu suivi son parcours. J'ai décortiqué ses reportages et je me suis intéressée à sa vie. Et voilà, j'ai écrit sur sa vie.
Ok, génial. Avant de passer à Vert, j'aimerais revenir avec toi sur une de tes expériences et notamment ton année en Argentine. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette année et ce que ça t'a permis de découvrir, entre guillemets?
Alors, c'était une année d'échange quand j'étais à Sciences Po Lyon, quand il y a beaucoup d'instituts d'études politiques dans lesquels on fait une année comme ça. En troisième année, généralement, on part un an à l'étranger, soit faire un stage, soit poursuivre des études universitaires. Et moi, c'est ce que j'ai fait à Buenos Aires. J'ai eu des cours quoi à l'université de Buenos Aires. Et du coup, j'ai pu avoir des cours de sociologie, d'histoire de l'Argentine, d'histoire des partis politiques argentins. C'était super intéressant, mais j'avais très peu d'heures de cours. J'avais une dizaine d'heures de cours et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire à côté? Donc, je suis allée frapper à la porte de la Ligue argentine pour les droits de l'homme. Et j'ai été stagiaire pendant quelques mois à côté de mes études où je bossais avec des avocats sur des cas, parce qu'il y avait beaucoup de procès contre les dictateurs argentins à l'époque. Il y a eu une grosse dictature en Argentine il y a quelques dizaines d'années. Et du coup, il y avait des procès qui se faisaient et moi, j'aidais les avocats à préparer des dossiers. Voilà.
Ok, génial. Et du coup, tu vas créer Vert, le média avec ton associé Lou Espargilière. J'espère que je le dis bien. Donc, fin 2019, début 2020. Comment et pourquoi est-ce que vous avez créé ce média?
Ouais, à la base, c'est Lou qui était journaliste depuis 5 ans. Lui, il a fait une école de journalisme. Et en fait, il était pigiste sur les questions environnementales et il considérait qu'il n'y avait pas de médias sur l'écologie qui étaient suffisamment généralistes, c'est-à-dire qui permettaient au grand public de vraiment comprendre les questions d'actualité sur l'écologie. En gros, à l'époque, il y avait un média indépendant qui s'appelle Reporter, qui était assez positionné à l'époque sur les questions plutôt sociales, militantes, chroniques des luttes. Il y avait grands médias généralistes comme Le Monde, mais qui, en gros, c'était cantonné à la rubrique Planète, tout ce qui avait trait à l'écologie. Et dans d'autres rubriques, on ne retrouvait pas du tout ce timbre-là, cette empreinte-là écologique. Et puis, des médias hyper spécialisés, type Actu environnement, sur les aspects réglementaires, des choses comme ça. Donc en fait, il s'est dit, il manque vraiment un média qui, chaque jour, me permette de faire ma veille sur les questions écologiques. Et du coup, il a eu cette idée-là fin 2019, effectivement. Il a fait une première mouture de la newsletter, parce que Vert, en fait, c'est essentiellement une newsletter qui est envoyée chaque jour à nos abonnés, à midi, du lundi au vendredi, et qui propose un tour d'horizon, en fait, de l'actu de l'écologie sur le climat, sur le vivant, etc., en 7 minutes de lecture. Le but, c'était d'avoir une newsletter qui soit relativement courte, bien pensée, où on ait les articles en entier. Donc, on l'a vraiment conçu comme un petit journal. Donc, tu as, en fait, voilà, toutes ces rubriques qui sont là pour que le lecteur, bah, finalement, il trouve dans sa boîte aux lettres, comme avant, il ouvrait sa boîte aux lettres physique pour trouver le journal. Bah, là, il ouvre sa boîte aux lettres électronique et il trouve ce petit journal sur l'écologie chaque jour à midi. Il n'a pas à faire l'effort, en fait, d'aller sur notre site pour consulter les articles. Là, c'est le journal qui vient directement à lui. Donc voilà, on a lancé ça effectivement tous les deux début janvier 2020. À ce moment-là, c'était juste avant le Covid. Donc en fait, si tu veux, on a eu 2 mois et demi juste avant le Covid pour commencer à faire la soirée d'inauguration du journal. On a fait ça, je crois, fin février 2020. Donc c'était vraiment genre 3 semaines avant le premier confinement. Et après, on a commencé à développer vers... On a créé la société Vert en mai. Au début, c'était la micro-entreprise de Lou qui finalement lui permettait d'avoir un salaire. Et progressivement, on a créé cette société et on a développé en fait le business à deux à partir de mai 2020. Et moi, si tu veux, à l'époque, ce que je faisais, j'écrivais en parallèle, je finissais d'écrire mon roman. Et donc, j'avais un peu de temps en fait pour relire la newsletter. Et en fait, quand tu écris un article, il y a forcément des erreurs, il y a forcément des coquilles, il y a un peu des phrases mal tournées ou quoi. Et donc, il y a un boulot qui est un peu invisible, mais qui est celui du correcteur, relecteur, et qui va, on appelle ça des secrétaires de rédaction, généralement en journalisme, et c'est des journalistes, effectivement, qui font ce travail de relire et corriger les articles avant qu'ils sortent. Donc, moi, je faisais ça au début pour Vert. Et progressivement, en fait, j'ai commencé à prendre de plus en plus de place dans ce projet. Et aussi à trouver ma place hein, tout au long de 2020-2021. Mes missions ont vachement bougé, on en reparlera peut-être. Et on a créé cette société à deux en mai 2020 avec vous.
C'est vrai que ça a été un sacré timing, quelques semaines, quelques mois avant l'arrivée de la pandémie. Comment est-ce que vous l'avez vécu justement en lien avec votre média? Finalement, c'était presque le timing parfait, entre guillemets.
Ouais, la chance qu'on a eue, c'est que c'était un média en ligne. Donc déjà, on n'a pas eu à gérer des problèmes d'approvisionnement, de logistique ou je ne sais quoi avec le papier. Ou plus récemment, ce qu'on voit avec le papier, c'est aussi une inflation des coûts qui est absolument énorme. Le prix du papier explose en ce moment, donc nous, on n'a pas à gérer ça. Mais pour revenir à ta question, en fait, je pense qu'on a quand même été impacté parce qu'on a connu un développement plus lent que si on avait vu les gens. Parce qu'en fait, si tu veux, il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de médias qui se lancent. C'est déjà des journalistes connus, ou alors ils se lancent avec pas mal d'argent. Nous, ce qu'on a mis dans Vert, au départ, c'était genre 1000 balles et rien d'autre. Quoi. Tu vois, 1000 balles qu'on a mis dans le design graphique pour créer le logo et la charte. Et au final, on n'avait pas beaucoup d'autres ressources que ça. Nous, on n'avait pas des noms connus, on est relativement jeunes. Donc en fait, on avait vraiment à faire notre trou dans le paysage médiatique. Et ça a pris un peu de temps. Et au début, avec le confinement, je pense que ça a été vachement ralenti. On n'a pas pu aller serrer des poignées de main. Enfin, tu vois, en plus, quand tu es journaliste, tu travailles beaucoup sur le terrain. Là, ce n'est pas des choses qu'on a vraiment pu faire. Enfin, ça a été un petit peu plus compliqué. En revanche, à partir de septembre 2021, on a ouvert des bureaux à Paris. On a recruté des gens et on a constitué une vraie équipe dont on a, pour certains, il y a une journaliste en CDI qui était notre alternante l'année dernière, qu'on a pu effectivement embaucher à la rentrée 2022. Donc à partir de 2021, on a vraiment commencé à se réancrer à Paris, à avoir ses bureaux et à aller à énormément d'événements, à être invité aussi beaucoup dans des conférences, des tables rondes, à participer à l'écosystème parisien des médias qui est très riche, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, très effervescent forcément. Et puis après, il faut un peu faire le choix entre les projets qu'on mène. Mais globalement, effectivement, je pense que le côté physique, c'est absolument essentiel. Le fait de rencontrer des gens physiquement, ça remplace... Internet ne peut pas remplacer ça, en fait. C'est-à-dire que la relation de confiance que tu crées, même quand tu vois une personne juste à une soirée, en fait, ça n'a pas de prix par rapport juste à envoyer un email ou un message sur LinkedIn. C'est, voilà. ça ne peut pas remplacer ça. Et quand on développe une entreprise, a fortiori quand on développe un média, on a besoin d'avoir une relation de confiance avec nos sources comme journalistes. On a besoin de trouver des gens qui vont être intéressés par notre média, qui vont participer à nos événements, parce qu'on fait aussi pas mal on organise des tables rondes, par exemple. Donc, quand tu organises une table ronde, tu vas avoir des interlocuteurs qui vont être là. Tu les vois, donc il y a une relation de confiance qui se crée. Ils vont forcément partager tes contenus de plus en plus, etc. Donc, en fait, ça participe au rayonnement du journal, d'avoir un réseau qui est un réseau pas en ligne, mais aussi un réseau physique de gens que tu connais vraiment.
Je pense que c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on peut penser que monter un média 100% digital, effectivement, il y a entre guillemets que le côté 100% digital, mais il y a cet aspect physique qui est, comme tu dis, extrêmement important pour rentrer dans ces écosystèmes, dans ces réseaux et se faire connaître aussi potentiellement du grand public, puisque c'est aussi l'objectif de Vert, j'imagine, c'est se faire connaître du grand public et être identifié comme le média le premier média dédié à l'écologie finalement.
Ouais, c'est totalement ça, c'est exactement l'objectif. Et ça, ça passe par la création aussi d'une communauté, par exemple, de lecteurs et de lectrices, mais qui peuvent nous rencontrer physiquement. En fait, si tu veux, aujourd'hui, il y a aussi pas mal d'a priori sur les médias. On a l'impression, certaines parties de la population ont l'impression que c'est un peu des officines obscures. On ne sait pas comment l'information est fabriquée. Et en fait, on a vraiment besoin d'ouvrir les portes de nos journaux et d'avoir de la transparence qui se fasse. Et ça, ça peut passer par des événements physiques où on invite nos lectrices et nos lecteurs à nous voir, donc ils savent qui on est. C'est pour ça qu'au début, quand on a créé Vert, on a choisi d'avoir la signature de la newsletter où on voit la tête des gens qui écrivent Vert. Et ça, c'est super important pour nous, en fait, de mettre des visages sur des noms. On signe absolument toujours nos articles. Il n'y a quasiment aucune information qui sort de Vert qui n'est pas signée par quelqu'un. Et pour justement avoir une relation de confiance avec chacun des journalistes qui travaillent à Vert. Et après, il y a d'autres métiers. On a par exemple quelqu'un qui est chargé du marketing. Cette personne aussi, elle est présente à nos événements. Donc, on peut les lecteurs, les lectrices, les gens de la communauté de Vert peuvent tout à fait nous rencontrer physiquement. Et ça me paraît hyper important. Et à terme, d'ailleurs, on veut développer ça partout en France. On aimerait ne pas rester uniquement à Paris. Mais faire des événements un peu partout en France. Après, pour l'instant, on n'est pas encore très nombreux. On est 5 salariés à temps plein permanent à Vert. Mais il faut qu'on grandisse pour justement pouvoir assumer le fait de faire des événements ailleurs qu'à Paris pour se déplacer, etc. Donc ça demande une gestion du temps aussi des journalistes, puisque c'est d'autres tâches que le fait d'écrire des articles qu'il faudrait faire.
Comment est-ce que vous fonctionnez au sein du média et comment est-ce que ça a évolué en fait, puisque c'est quand même un timing assez court, début 2020 à justement aujourd'hui, on enregistre ce podcast début janvier 2023.
Ça fait 3 ans.
Ça fait 3 ans exactement, donc bon anniversaire déjà aussi.
Généralement on le fête plutôt en mars.
Comment est-ce que ça s'est passé cette aventure?
Cette aventure, donc je disais au début on a fonctionné à deux avec Lou. C'est Lou qui écrivait la majeure partie des articles, donc qui faisait vraiment ce boulot de journaliste de sortir l'information tous les jours, donc c'était une énorme charge de travail pour lui. Et après, moi j'ai pris de plus en plus de place dans ce projet et je m'occupais principalement des aspects de développement business, gestion de l'entreprise, gestion administrative et financière, une partie des réseaux sociaux. Et en fait, ça me convenait pas sur certains plans parce que ce que j'aime faire aussi c'est écrire. Donc, courant 2021, je me suis un peu repositionnée dans mes missions. Et du coup, je conserve bien sûr la direction, notamment la direction administrative et financière, et puis une partie de la direction stratégique qu'on partage pour le coup à parts égales avec Lou. Mais je conserve du temps, en fait, pour ce qui me fait le plus kiffer, parce que je pense que c'est hyper important quand on développe une entreprise, c'est vraiment de prendre du plaisir à ça. Et donc, ce qui me procure, là où je me sens le plus utile, c'est quand j'écris des articles. Donc, j'ai réservé une partie de mon temps, en fait, à vraiment être dans la rédaction. Donc ça, ça a un peu changé, les missions, elles ont un petit peu changé. Courant 2021 aussi, on a essayé d'ouvrir un poste de chargé de communication, qui était notamment en charge de nos réseaux sociaux. Et en fait, ce poste-là n'a pas hyper bien fonctionné. C'était pas forcément dû aux personnes qui l'occupaient, mais c'était surtout dû en fait à la nature du poste. C'est-à-dire que aujourd'hui, faire des posts sur les réseaux sociaux quand on est un média, c'est quasiment être un autre média. Donc en fait, il faut faire une réécriture de nos articles expressément pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un gros travail, une grosse tâche. Et quand on n'est pas journaliste, bah, on ne voit pas forcément dans l'article ce qui est le plus important, le moins important. On n'a pas forcément les bonnes punchlines pour faire des posts, etc. Donc ce qu'on a décidé finalement, c'est de ne pas reconduire ce poste et de Lou et moi le faire en tant que journaliste et fondateur du média. Ce qui fait que ça prend quand même vachement de temps, mais nos réseaux sociaux depuis ont explosé en fait. Je pense qu'on devait avoir 5000 abonnés l'année dernière à Insta et genre là on approche des 40 000. Donc tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de bien s'occuper du réseau social. C'est un métier, mais c'est aussi un métier qui doit être connecté à la rédaction parce qu'on a cette particularité de déjà produire énormément de contenu et ce qu'il faut, c'est les adapter aux réseaux sociaux. Et après, je pense qu'on pourrait trouver quelqu'un de vraiment meilleur que nous-mêmes, puisque c'est pas notre métier premier, pour générer les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas, je pense, le réseau suffisant pour trouver le profil journaliste et réseaux sociaux qui aurait été utile pour nous.
Ok. Bah effectivement, c'est pas votre métier, mais plus de 37 000 abonnés sur Instagram, plus de 26 000 abonnés sur LinkedIn, plus de 13 000 abonnés sur Twitter, c'est quand même de très très bonnes
Il y a des réseaux qui montent tout seuls, comme LinkedIn par exemple, on a assez peu à s'en occuper. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on poste régulièrement, ça monte, voilà, ça grandit un peu tout seul. Instagram, en revanche, c'est vachement de taf, parce qu'il faut faire des posts dédiés, donc ça demande vraiment... voilà, de faire, nous on fait ça sur Canva, d'avoir des carousels, c'est-à-dire des posts à slides, plus les stories qui demandent aussi finalement de le faire en natif dans Instagram. Tout ça demande un travail. En fait, Instagram est un réseau social qui demande vachement de taf par rapport à LinkedIn où on peut se contenter de faire un peu des trucs plus discrets ou plus reproductibles sur d'autres réseaux type Twitter, quoi.
C'est du taf quotidien.
Et pour revenir à ta question, ce qui a changé depuis 3 ans, à Vert, il y a énormément de choses qui ont changé. Déjà, il y a le fait qu'on est passé de 2 à 5 personnes à temps plein. On a aussi des pigistes qui écrivent régulièrement, donc chaque semaine, elles écrivent dans Vert. Une pigiste ou un pigiste, c'est un journaliste indépendant, mais qui va être embauché soit à la journée, soit à l'article. Et donc, on a environ, on va dire, 7 personnes qui, chaque semaine, travaillent pour Vert, plus des pigistes qui écrivent à l'article. Et ça a modifié pas mal de choses à Vert, bien sûr. Il y a le fait de transmettre des compétences. Quand on est dirigeant d'entreprise, en fait, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir faire. C'est apprendre aux autres à occuper des tâches, notamment quand on a des jeunes, on en a plusieurs à Vert. Donc, ça veut dire vraiment prendre du temps pour former, pour transmettre ses compétences, pour avoir une transparence de la formation aussi, donc se doter d'outils collaboratifs et d'organisation. L'organisation, ça demande justement un énorme travail, non seulement pour gérer le programme de publication de la semaine, mais aussi justement pour partager l'information sur l'entreprise elle-même, sur les projets, sur ce qu'on va faire, etc. Donc nous, on utilise des outils, par exemple comme Notion, qui permet de s'organiser et de répartir le temps. Donc il y a eu tous ces enjeux-là de transmission, d'élargissement aussi de nouveaux projets. Bien sûr, on a fait énormément de projets dans ces 3 ans. Un des projets dont on est finalement les plus fiers, c'est qu'on a participé à l'élaboration de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et ça, c'était un projet qui nous a énormément tenu à cœur en 2022. En gros, on a lancé ça en mars 2022. On a travaillé avec 30 journalistes pour élaborer cette charte. Et du coup, ça a été hyper intéressant pour nous parce qu'on a été un peu catalyseur finalement d'un écosystème qui n'est pas forcément hyper, hyper solidaire de base. Et on a vraiment essayé de s'ouvrir, de dire aux autres journalistes, en fait, nous, on a envie de transformer le paysage médiatique, mais on est bien conscient qu'on n'est pas les seuls. Donc, on a envie aussi de regarder finalement d'autres médias et de se dire, en fait, les gars, vous faites quoi? Peut-être qu'on pourrait faire des choses ensemble, etc. Donc, ça a été un grand travail collaboratif. Et je pense que c'est très inspirant pour, y compris d'autres écosystèmes de business. C'est aussi de se dire, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur certains trucs, quoi. Et sortir un peu des logiques concurrentielles qu'on voit beaucoup dans certains écosystèmes, et le nôtre y compris, hein, les médias se regardent beaucoup les uns les autres, et se dire, nous on a envie de transformer le paysage médiatique et on a envie de transformer la société, et ça on ne peut pas réussir à le faire si on est tout seul. Et on a besoin, en fait, d'être solidaire avec tous les autres journalistes qui le font individuellement dans chacun de leurs médias, y compris les grands médias, et aussi dans d'autres médias indépendants, dans des petits médias, voilà, tout type de médias, en fait, on doit pouvoir être solidaire. C'est pour ça aussi qu'on a fait cette charte. Et ce qu'elle propose, c'est 13 points qui sont un peu 13 bonnes pratiques pour transformer le paysage, notamment ça passe par des choses comme faire plus de pédagogie sur l'écologie dans les médias, ça passe par se former en continu quand on est journaliste sur les questions écologiques, ça va être bien dissocier la rédaction des actionnaires s'il y en a, parce que c'est aussi ce qu'on voit dans les grands médias, donc des problèmes un petit peu entre publicité, information, voilà, donc séparer bien la rédaction des annonceurs et des actionnaires, des propriétaires du média. Et cette charte, elle a eu un énorme retentissement quand elle est sortie le 14 septembre. Elle a été signée par plus de 1600 journalistes, par une centaine de rédactions. Et ça nous a donné une place intéressante dans l'écosystème, puisque en fait, ça nous a vraiment identifiés comme étant les porteurs de ces réflexions-là. Et depuis, par exemple, on fait de la formation auprès d'autres grands médias, enfin auprès de grands médias, sur les questions écologiques. Donc en fait, on va former nos consoeurs et nos confrères des grands médias, parce qu'il y a effectivement une bascule qui est en train de se faire dans le monde médiatique, et on en parlera sans doute tout à l'heure, mais il y a encore beaucoup de taf, effectivement, pour que l'information soit à la hauteur de l'urgence écologique.
Super intéressant. Effectivement, t'as anticipé ma question d'après, qui était justement sur cette charte qui a fait effectivement du bruit et qui a été grâce à laquelle vous avez été invité sur de nombreux médias, justement. Et j'aimerais revenir vers toi sur justement votre business model et de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, avec Vert, vous gagnez de l'argent. Je sais qu'il y a une partie donation et je sais qu'il y a une partie aussi formation, du coup, comme tu en as parlé.
Oui, tout à fait. On a fait le choix, en fait, d'aligner notre modèle économique avec les valeurs qu'on avait envie de porter avec Vert. Donc, dès le début, il était évident qu'on allait faire un média indépendant. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas envie d'avoir de publicité et de dépendre d'annonceurs. Et en plus, on a eu vachement raison parce que les revenus liés à la publicité se sont effondrés pendant le Covid. Donc, finalement, c'était un choix stratégique qui était vraiment hyper intéressant. Et ça nous paraissait inconcevable, en fait, de devoir rendre des comptes à des marques ou d'avoir des intérêts un peu mélangés avec le secteur privé, notamment. Ça vaut aussi pour le secteur public, hein, puisque voilà, on est indépendant du gouvernement, indépendant, bien sûr, des partis politiques, tout ce que tu veux. Mais notamment avec les intérêts privés, pourquoi ? Parce qu'on est dans un moment où il y a énormément de confusion, par exemple sur les réseaux sociaux, avec des marques qui font beaucoup de greenwashing. Dans la publicité, tu vois un petit peu tout et n'importe quoi, donc tout de suite, on s'est dit non, nous, on va se mettre en retrait par rapport à ça et on va créer un média indépendant. Ça veut dire du coup qu'on doit trouver des revenus qui sont les plus indépendants possibles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos lecteurs de faire des dons. Donc c'est plutôt le modèle effectivement du don qui fonctionne très bien. Il fonctionne bien, mais il demande beaucoup de travail, notamment de création de communautés. Demande beaucoup de travail de campagne de crowdfunding. Voilà, je pourrais détailler un petit peu ce qu'on fait. Mais donc, il y a deux piliers de financement à Vert. Il y a le premier, c'est les dons. Et le deuxième, c'est la formation, effectivement, qu'on fait auprès des grands médias ou d'autres médias, y compris indépendants. Les dons, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre au quotidien. Ça veut dire que tu as des dons qui sont des dons récurrents. On a la chance de récolter des dons qui sont défiscalisés parce que c'est une exception de la presse. En fait, on passe par une association de la presse indépendante qui collecte des dons pour nous. Et du coup, les dons sont déductibles à 66%. Ce qui fait que les gens, en fait, sont dans une démarche d'engagement et de soutien aux médias. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça sort un petit peu des logiques dont on a l'habitude, tu vois, qui sont plutôt des logiques d'abonnement. C'est-à-dire que tu prends, par exemple, tu peux lire Mediapart ou tu peux lire Le Monde pour les articles qui sont réservés aux abonnés uniquement si tu es abonné, etc. Nous, on a voulu que ce soit le plus ouvert possible, donc on est un média en accès libre, donc gratuit si tu veux. Tu peux aller sur notre site, tu peux t'abonner à la newsletter gratuitement. Pourquoi ? Parce que en fait, on voulait absolument que l'information sur l'écologie se diffuse le plus largement possible. Donc on voulait pas mettre de frein en fait à cette information-là. Par contre, on dit effectivement en permanence à nos lecteurs et nos lectrices, pour avoir une information de qualité, ça a un coût, ça veut dire qu'on paye des journalistes, et donc soutenez-nous dans cette démarche de diffusion de la connaissance au plus grand nombre, et donnez-nous quelques euros par mois. Donc en permanence, en fait, dans la newsletter, tu as généralement un petit texte, un peu d'appel aux dons. On n'en met pas tout le temps pour varier un petit peu, mais Régulièrement, en fait, on envoie des appels aux dons et parfois on envoie aussi des mails dédiés. Donc, c'est pas la newsletter, c'est un mail que tu reçois à un autre moment et qui va justement demander spécifiquement à nos lecteurs de nous soutenir. Et ensuite, donc ça, c'est pour les dons un peu réguliers. Et puis, cette année, on a lancé deux campagnes de crowdfunding. Au mois de mai, on a lancé une campagne qui était plutôt une campagne juste de communication, genre juste sur nous, genre soutenez-nous, vous avez un mois pour nous soutenir, etc. Et ça a très bien marché. On avait demandé 20 000 euros et on a eu 32 000. Donc, tu vois, en un mois, en fait, ça a super bien marché. C'était l'occasion aussi de représenter ce qui était vert, d'augmenter notre visibilité, de solliciter notre réseau aussi, et du coup, de le renforcer, finalement, de prendre des nouvelles des gens, de demander à certaines personnalités de nous soutenir, à certaines organisations aussi, bref, aux gens qui utilisent vert, mais qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de nous soutenir jusque-là, de leur dire, bah, en fait, ça vous sert au quotidien pour votre culture générale, ça vous sert pour vous informer sur l'actu de l'écologie, ça vous sert peut-être dans le milieu professionnel à vous tenir informé de ce qui se passe au quotidien. Donc voilà, si ça vous est utile, en gros, maintenant, soutenez-nous. Et la deuxième campagne qu'on a faite en novembre-décembre, là, il y a quelques semaines, là, c'était une autre logique. C'était un nouveau projet, un projet de poster sur les ordres de grandeur sur l'écologie. Donc en gros, c'est des posters. Le premier, c'est sur le CO2. Et le but, c'est de comprendre les ordres de grandeur vraiment sur le carbone. Se dire, mais en fait, qu'est-ce qui consomme chez moi? Qu'est-ce qui consomme dans mon bilan carbone personnel? Et puis, qu'est-ce qui consomme voilà, entre les grands pays? Quelles sont les solutions pour atteindre la neutralité carbone? Donc avec des trucs très concrets. On l'a fait à ce poster avec une infographiste. Bien sûr, là, ça dépasse complètement nos compétences de graphisme. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais on est allé chercher toutes les données. On a vérifié avec des scientifiques que tout était juste. Donc, ce poster, il a été relu voilà, par d'éminents scientifiques. Et on a proposé au public de soutenir ce projet. Donc, d'avoir non seulement un poster, mais une série de posters en infographie qui va sortir tout au long de 2023 et 2024. Parce qu'en fait, on a carrément explosé les scores. Notre premier palier pour 3 posters, c'était 9 000 euros. Le maximum pour, je crois, 10 ou 11 posters, c'était 33 000 euros. Et en fait, on a eu 52 000. Donc, le projet sur KissKiss, il a explosé. On a eu plus de 500% de notre objectif initial. Et ça nous a permis eh bien, d'avoir une année qui, au niveau financier, est vraiment bonne, quoi. Donc, on est hyper contents. On a été soutenus par notre communauté. On a beaucoup travaillé pour ça. Ça demande effectivement des logiques où en permanence, tu vas te dire bah, comment est-ce que je peux inciter les gens à donner. Donc, c'est à la fois élargir la base de gens qui connaissent Vert. Donc, ça, c'est un enjeu de notoriété. Et puis, c'est aussi se dire, mais OK, une fois que les gens nous connaissent et qu'ils nous aiment parce qu'ils sont abonnés à la newsletter, comment eh bien, ils peuvent nous soutenir. Donc, ça, c'est plein de logiques marketing qu'on met en place. En prenant de l'information à droite à gauche, on a aussi été accompagné par une agence qui est spécialisée dans les médias, qui s'appelle Médiane, qui est vraiment très bien, et qui nous a bien aidé sur la première campagne de crowdfunding. Donc voilà, c'est en mettant en place tous ces outils stratégiques, on a vachement encore de taf à faire sur le marketing. C'est un peu un champ infini, mais c'est grâce à ça qu'on récupère des dons. Et la formation, c'est autre chose. La formation, c'est du coup plus le réseau professionnel. Il y a beaucoup de journalistes qui sont abonnés à Vert. Et il y a beaucoup de journalistes qui trouvent qu'on fait un super taf. Donc ça, c'est beaucoup de reconnaissance. Et ça nous permet d'avoir des missions avec des organismes de formation comme samsa.fr ou Imagine 2050 qui nous donnent des missions en fait pour aller dans d'autres médias pour les former. Donc c'est eux qui font les aspects appel d'offres. Et nous, en fait, on fait les formations. C'est un peu la répartition. Et c'est intéressant pour nous aussi parce que ça nous permet en fait de diffuser aussi notre vision de l'écologie. C'est-à-dire qu'en faisant ça, tu vois, si on forme des journalistes qui ensuite écrivent des articles ou qui font des vidéos ou de la radio, bah, ça veut dire que cette vision-là, elle instille, même si on relativise hein, ce pouvoir d'influence, mais en tout cas, mine de rien, en plantant des graines un peu voilà, dans le cerveau des journalistes, bah, les choses changent. Et puis, on n'est pas les seuls, bien sûr, on participe à tout un écosystème qui est très riche. Les réflexions sont absolument passionnantes avec certains confrères, consoeurs qui se posent ces questions-là depuis bien plus longtemps que nous et qui font un travail exceptionnel. Il y a des associations, notamment de journalistes, qui réfléchissent aux questions environnementales depuis 50 ans. Donc, on est parmi les derniers arrivés dans le paysage, mais on a cette vision solidaire et stratégique d'un paysage qui doit changer aujourd'hui et qui est en train de changer. Donc, on accompagne ces changements-là.
Ok, super intéressant. Donc, d'un côté, il y a une communauté qui est très engagée. et de l'autre, il y a aussi le fait d'être reconnu et d'avoir été reconnu très rapidement par ses pairs, PAIRS. Mais et c'est de là font que ça a été une très belle dernière année, du coup. Et tout ça, c'est relié à un contenu de qualité et à une récurrence de ce contenu, finalement.
Ouais, tout à fait. Tu fais bien de le souligner, mais on voit beaucoup de gens qui se lancent. Ouais, c'est ça. On voit beaucoup de gens qui se lancent dans les médias en lançant leur truc, mais qui sont pas assidus. En fait, quand on lance un média, on a besoin d'avoir. Il y a beaucoup de code et on a besoin d'avoir un sérieux. Et le produit doit être nickel en fait de base. C'est-à-dire qu'il faut le produit journalistique, c'est quoi quand on est un média de presse écrite? C'est qu'on doit avoir des articles qui sont rigoureux, on doit avoir bien sûr respecté la déontologie journalistique, donc les règles de notre métier, qui sont l'indépendance par rapport à des conflits d'intérêts, le fait de croiser ses sources, d'avoir une information qui est sourcée, qui est rigoureuse, on sait d'où vient l'information en fait, on laisse apparaître les coutures de l'information, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis au-delà de ça, le produit doit être de très bonne facture, quoi. Par exemple, nous on sort la newsletter tous les jours à midi, et ça nous arrive deux fois par an d'être en retard, sinon c'est toujours à l'heure. Et c'est on est très rigoureux par rapport à ça, parce qu'en fait, les gens, ils sont habitués. On peut pas d'un coup sortir la newsletter à 18h en se disant « bah c'est pas grave, je vais finir mon article l'après-midi et puis on verra ». Non, en fait, il faut que le produit de base, il soit nickel. Il faut que le graphisme, il soit joli. On a beaucoup donné, effectivement, pour que le site web, par exemple, vert.eco, soit... un très joli site, donc on a beaucoup travaillé avec la graphiste et le développeur qui ont développé ça, et qui voilà, nous ont fait un site qui est nickel. En fait, c'est que des petits trucs comme ça où il y a déjà un sérieux qui est vraiment le truc de base, et ensuite par-dessus on peut rajouter des projets, on peut rajouter du réseau, on peut rajouter tout ce que tu veux, mais il faut déjà que le produit de base soit super.
Ouais, je pense que c'était important de le rappeler, parce qu'effectivement créer un média c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais la création d'un média, c'est difficile. Donc c'est important de le rappeler. Tu en as parlé un peu avant sur la charte, mais j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des médias traditionnels français et de leur rapport à l'écologie?
C'est très, très ambivalent. Le constat de base qu'on pourrait faire, c'est que les médias généralistes parlent peu d'écologie. Quand ils en parlent, souvent, ils en parlent pas forcément bien, ils en parlent plutôt mal. Mais, alors, je vais détailler un petit peu. Par exemple, l'un des problèmes, c'est qu'ils font très peu le lien entre les événements extrêmes qui nous arrivent. Donc, par exemple, tu vois, l'été de sécheresse, avec des canicules à répétition, où là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui même, il fait hyper chaud alors qu'on est en plein hiver. On a eu l'année 2022 qui a vraiment explosé tous les records. Hein. Il a fait vraiment extrêmement chaud, anormalement chaud. Et le 31 décembre, c'était le nouvel an le plus chaud de l'histoire, hein, depuis l'histoire des relevés. Donc en fait, tout ça fait que... du coup, les médias en fait expliquent relativement mal. Ils emploient des termes qui sont pas forcément les bons termes. Et on va parler de douceur, par exemple, alors que c'est une chaleur catastrophique. On va parler de réchauffement comme si c'était quelque chose de doux, on va parler de perte de biodiversité ou de... je sais plus quel était le terme, mais bref, nous, on préfère des termes un peu plus corsés pour montrer en fait qu'il y a une urgence et pour montrer que ce qu'on vit n'est pas neutre, en fait. C'est peut-être le plus grand défi de l'humanité, en fait, ce prochain siècle. Donc il faut que les médias absolument se transforment pour employer des mots à la hauteur de l'urgence, pour employer des images à la hauteur de l'urgence. On peut plus en fait voir des enfants qui jouent dans des fontaines, de voir des gens qui sont heureux sur les plages en permanence, alors que par exemple en ville, il y a des gens qui souffrent de ces situations de canicule là. Il faut en fait changer notre vision, la manière dont on présente l'information. Il y a un deuxième problème qui est qu'on le relie très peu ce qui nous arrive aux causes sous-jacentes en fait du réchauffement climatique. C'est quoi les causes sous-jacentes? En fait, c'est tout simplement les activités humaines. C'est-à-dire qu'on vend de plus en plus de voitures, notamment de SUV qui polluent beaucoup parce qu'ils sont plus lourds, parce que c'est des véhicules qui sont totalement démesurés en termes de matières premières qui sont nécessaires pour faire ces SUV. Ils consomment énormément d'énergie fossile. C'est lié en fait à notre mode de vie. Mais simplement remettre en question ce mode de vie-là, c'est extrêmement compliqué pour les médias parce que traditionnellement, ils sont plutôt en train de chroniquer des choses dont ils ont l'habitude. Par exemple, pendant la campagne politique, on va avoir des journalistes politiques qui vont interroger sur, l'économie, la politique, la justice, des fonctions vraiment bien régaliennes, traditionnelles. Ils vont relativement peu interviewer les candidats sur l'écologie, sur les questions écologiques. Et ça, on l'a vraiment vu pendant la campagne présidentielle. Ça a été montré par l'ONG, enfin par la coalition L'Affaire du siècle, qui a mesuré chaque semaine le taux, le volume médiatique qui était consacré à l'écologie. Et ça a dépassé jamais 5% par rapport au reste des articles. Ouais. On a vu avec la sortie des rapports du GIEC, donc c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a sorti en 2021-2022 trois volets de son sixième rapport, qui a vraiment fait l'état des connaissances scientifiques sur le climat. Et à chaque fois, il y a eu des articles, bien sûr, il y a eu de très bons articles, et il y a de très bons journalistes dans les grands médias. Mais à chaque fois, la hiérarchie de l'information, c'est-à-dire la manière dont on classe l'information, était toujours en défaveur de ces nouvelles sur l'écologie. Par exemple, en 2021 ou 2021, t'as Lionel Messi qui est transféré au PSG le même jour que la sortie du premier volet du rapport du GIEC. Ben, en 24 heures, en fait, Messi, c'est 5 fois plus d'articles que le rapport du GIEC, alors que ça concerne quand même vachement plus notre avenir de parler du rapport du GIEC plutôt que de parler du transfert de Messi. En fait, le problème, c'est pas qu'on parle du transfert de Messi, bien sûr, on doit en parler, mais on doit pas lui accorder autant d'importance dans la ligne éditoriale, soit pas faire l'ouverture du JT, tu vois. Il faut que l'ordre des priorités, en fait, dans les médias s'inverse. Et il faut qu'on en parle mieux. Aujourd'hui, par exemple, on va parler d'événements, de désobéissance civile, par exemple, de dernière rénovation qui va bloquer des routes ou qui va jeter de la soupe. On en parle vraiment comme des criminels sans vraiment comprendre ce qu'ils ont derrière la tête. Peut-être qu'effectivement, les méthodes ne sont pas les bonnes. Ça, c'est aux citoyens et aux citoyennes d'en juger. Mais il faut aller décortiquer les enjeux, il faut aller comprendre ce qui se passe, aller vraiment aux causes du réchauffement climatique et bien expliquer, donc faire preuve de pédagogie. Et puis la dernière chose qui manque vraiment à la presse traditionnelle et aux médias traditionnels, c'est de proposer des solutions. C'est-à-dire que tu vois, on parle très très peu de concrètement, en fait, comment on fait pour sortir de la crise climatique, comment on fait pour arrêter l'effondrement de la biodiversité. Ça, on en parle extrêmement, extrêmement peu. Une des grandes solutions dont on parle, commence à parler un petit peu en ce moment, parce qu'on parle beaucoup de sobriété énergétique, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Voilà, ça permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre du logement de manière hallucinante. Et bah, c'est des solutions comme ça, en fait, qu'il faut mieux présenter dans le débat public, parce que c'est des solutions qui sont des solutions politiques, qui doivent être discutées dans l'arène citoyenne, hein, puisqu'on est en démocratie, donc on discute en fait des enjeux, des débats qui nous traversent. Et on a besoin, effectivement, de journalistes pour éclairer ces solutions-là, pour enquêter sur ces solutions-là et pour les présenter au public. Donc, c'est un peu tout ça qui dysfonctionne dans les médias et c'est ça qu'on voit notamment dans les formations qu'on donne à Vert.
Et c'est pour ça que l'enjeu médiatique est énorme. Outre le gouvernement, ce sont aussi les médias qui sont les plus à même de pouvoir sensibiliser le grand public à ces sujets-là, en fait. Donc, c'est clair que c'est super important.
Ouais, totalement. Et nous, c'est pour ça qu'on est ravis, en fait, d'être beaucoup lus chez les journalistes, parce que c'est quelque chose qui, en fait, nous permet, voilà, d'exercer ce petit pouvoir d'influence pour transformer la société. C'est en tout cas le créneau qu'on a choisi. Mais je pense que c'est pas le seul. Les médias, c'est super important, mais en fait, les auteurs de films, les réalisateurs de films, les auteurs de bandes dessinées, tout le secteur culturel, en fait, a un impact énorme. Et ce serait génial, en fait, que de plus en plus de créateurs, de créatrices s'emparent de ces sujets-là et teintent la manière dont ils regardent le monde, des enjeux climatiques et aussi des enjeux sociaux, bien entendu, parce qu'il n'y a pas que les enjeux écologiques. Il faut que ce soit lié aussi aux enjeux de justice sociale, sinon ça marche pas. Sinon, ça donne les gilets jaunes, hein, c'est-à-dire une mesure écologique, mais qui n'est pas du tout juste socialement, et du coup, bah, ça ne marche pas. Donc il faut croiser ces deux enjeux-là, et à partir de là, on a une nouvelle grille de lecture du monde. Et je pense que l'entreprise aujourd'hui doit absolument s'inscrire là-dedans. Donc mettre ses nouvelles lunettes écologiques pour voir le monde. Et je pense que quand on développe un business, en fait aujourd'hui, ça doit être au cœur de notre business. Se demander si on a un impact positif ou négatif sur ce qui nous entoure, en fait. Si aujourd'hui on lance une marque qui va s'appeler Shine et qui défonce le vivant parce que son modèle, c'est simplement de faire de l'hyper fast fashion et de vendre des articles dans le monde entier avec des ateliers qui sont dans des pays où on va exploiter des enfants et des populations comme les Ouïghours, ça, c'est pas possible, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, Il y a une responsabilité quand on est entrepreneur de vraiment penser son business model en fonction de ces enjeux-là. Et en plus, c'est génial parce que, si tu veux, dans la transition écologique ou dans la bifurcation, c'est-à-dire le fait de vraiment changer de société de manière assez radicale pour qu'on limite justement les pires effets du réchauffement climatique, eh bien, quand on choisit de mettre l'écologie, la justice sociale au cœur de son business model, on peut faire des choses exceptionnelles. On peut participer à la régénération du vivant, c'est-à-dire qu'on peut se lancer dans des solutions pour protéger les écosystèmes, on peut aller sur des choses très créatives. Je veux dire, la créativité, on la garde, l'innovation, on la garde. Simplement, c'est pas forcément de l'innovation hyper technologique. Ça peut être aussi de l'innovation sociale, ça peut être de l'innovation de comment est-ce qu'on appréhende, en fait, la manière, notre rapport au monde. Ça peut être comment on fait plus participer les gens au débat démocratique. Donc, toutes les solutions autour de la civic tech, par exemple, il y en a certaines qui sont vraiment passionnantes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a plein d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs engagés et qui se posent justement la question de savoir comment ils peuvent contribuer à la société de manière positive. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Après, bien sûr, il y a des solutions qui sont un peu contestables, mais je pense que déjà, si on se dit en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur, tiens, quel est mon impact et comment je vais pouvoir justement contribuer à un modèle qui régénère le vivant plutôt que le détruit, je trouve ça cool en fait. Et je trouve ça même pas seulement cool, je trouve ça absolument nécessaire aujourd'hui. Je pense qu'on a une responsabilité tout à chacun là où on est dans la société. Et quand on est entrepreneur, on a un rôle particulier dans la société. C'est comme quand on est prof, je reviens à mes parents, mais c'est comme quand on est prof, on a un enjeu de transmission. Quand on est journaliste, on a aussi un enjeu d'éclairer le débat public avec ces questions-là. Qu'en fait, je pense que chacun, là où on est, même en tant que parent, en tant que pote, en tant que quoi que ce soit, on a une responsabilité, on a un rôle. Et il ne faut pas que ce soit un sacerdoce, ce n'est pas un sacerdoce, ce n'est pas punitif. C'est au contraire, c'est hyper créatif, c'est joyeux. La manière, moi, dont j'essaie de manager vers, c'est quelque chose qui me procure vraiment de la joie en permanence, en fait. Et j'ai l'impression de contribuer à une société plus juste et meilleure. Donc, en fait, il y a les deux, quoi. Je pense que les deux sont compatibles et je pense qu'on peut avoir des entrepreneurs qui sont hyper épanouis et qui proposent des solutions super intéressantes. Là, par exemple, Vert, on a intégré le réseau Entreprendre Paris. Donc, on côtoie en fait beaucoup d'entrepreneurs et il y en a qui font des choses vraiment super intéressantes. Je pense que du coup, les deux sont possibles.
Totalement aligné avec ce que tu as dit. Pour conclure sur cette partie, j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres, quelques stats sur Vert ? Vous êtes combien aujourd'hui chez Vert ? Combien d'abonnés sur la newsletter, etc. Et l'autre question, c'est quels sont les objectifs futurs pour les prochains mois et cette belle année 2023 ?
Avec plaisir. Alors, Vert, on est, je le disais, donc 5 permanents. Et deux pigistes régulières, donc ça veut dire qu'elles participent aux conférences de rédaction, à la manière dont on fabrique le journal le lundi après-midi. Et puis on a des gens avec qui on collabore de manière plus ponctuelle, donc des pigistes réguliers, enfin des pigistes occasionnels, pardon. Donc, c'est-à-dire que une fois par mois, une fois par trimestre, on leur demande d'écrire un article ou ils nous proposent un article et nous on dit oui ou non. Après, en termes d'abonnés sur la newsletter. On a dépassé en décembre les 25 000 abonnés, donc là on doit être à 25 000 et quelques, donc c'est déjà une newsletter qui est franchement assez conséquente en termes d'abonnés. Pour te donner un élément de comparaison, en décembre 2021 on était à 7 000 abonnés, donc on est passé de 7 000 à 25 000 en 2022, donc c'est hyper positif en termes de croissance du nombre d'abonnés. Les perspectives pour 2023, c'est d'essayer je serais hyper contente si on arrivait à 50 000 en décembre 2023. On verra si on arrive à le faire. Mais en tout cas, on est sur un rythme d'acquisition d'abonnés qui est super sympa. Et ça, c'est lié à plein de choses. C'est lié à toute notre stratégie de communauté. C'est lié au fait qu'on ait des articles régulièrement dans des médias, dans des grands médias, qu'on puisse passer dans des émissions de radio, de télé. Par exemple, on est invité parfois à la Terre au Carré sur France Inter. Donc ça nous permet d'avoir effectivement pas mal d'abonnés qui arrivent. Et par les réseaux sociaux aussi, puisqu'on s'exprime de plus en plus sur les réseaux sociaux, que ce soit à titre individuel ou par Vert. Et ça, c'est aussi un bon moyen d'acquérir effectivement des abonnés. Donc 2023, ouais, je te dis, on va ouvrir aussi des postes. On va ouvrir un poste, notamment au premier semestre, de journaliste. Donc ça, c'est une info qu'on n'a pas encore diffusée, mais on va le faire. On va ouvrir un poste de journaliste plutôt senior, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà de l'expérience et qui peut nous épauler justement pour corriger des articles, encadrer aussi des plus jeunes qu'on a et puis participer à la vie de Vert. Et après, on hésite encore sur les autres postes, mais du coup, il y aura un ou deux autres postes ouverts en 2023 chez Vert. Et le but, c'est en fait qu'on grandisse comme ça, parce qu'on est assez prudent vu qu'on est un média indépendant et qu'on dépend des dons. C'est-à-dire qu'on veut pas non plus, tu vois, là, on termine l'année à l'équilibre, donc on est hyper content. Mais on veut pas non plus, en fait, mettre en danger cet équilibre.
Grandir trop vite, ouais.
Voilà, et grandir trop vite. Sachant qu'on veut justement pas qu'il y ait d'un coup un milliardaire qui nous rachète. C'est pas du tout ça le but, c'est de vraiment rester indépendant et de maîtriser justement notre croissance.
On va pouvoir passer à la partie bilan avec deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette aventure ?
Le plus difficile, c'est de gérer la charge de travail et l'organisation. Notamment dans les dernières semaines, dans les derniers mois, en fait, on a fait énormément de choses différentes. Et moi, à titre personnel, j'ai beaucoup, beaucoup d'activités différentes au sein de Vert. Donc, c'est un peu justement réussir à être genre une super organisatrice de mon propre planning et de mon propre agenda. Ça, c'est quelque chose qui m'est le plus difficile à moi. C'est-à-dire assumer vraiment une charge de travail vraiment très intense, avec des horaires vraiment étendus, avec des jours du week-end qui sont travaillés. Donc pour l'instant, j'ai l'impression effectivement que l'organisation est la chose la plus difficile. Et c'est pour ça qu'en 2023, je me suis fait cette résolution. On verra si je la tiens, mais on est en janvier, donc je peux encore donner des bonnes résolutions. C'est de réussir à dire non, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de collaborations, il y a plein de gens qui me demandent effectivement d'intervenir, il y a plein de possibilités, d'opportunités. Et puis en plus, quand on est un média, on est assez visible. Donc en fait, les gens nous contactent très facilement. Et du coup, au bout d'un moment, trop de sollicitations, en fait, tue la sollicitation et tue l'organisation aussi de ma charge de travail. Donc là, le but de 2023, c'est de dire plus non. Et voilà, c'est louper forcément des choses belles et des chouettes rencontres. Mais en fait, on peut pas tout faire. Et il faut aussi pouvoir continuer son cœur de métier, c'est-à-dire celui d'être journaliste et d'écrire des articles et d'être entrepreneur et de faire grandir cette belle société qui est Vert, quoi. Donc moins d'extérieur et plus d'intérieur.
Ouais, ça c'est super important de faire des choix justement et de très souvent devoir refuser des opportunités parce que ça fait partie du jeu et il n'y a que 24 heures dans une journée, donc c'est clair que je suis bien aligné là-dessus. La deuxième question bilan, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui ?
La plus fière, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la charte, en fait, c'est d'être dans un écosystème qui devient solidaire, mettre en place vraiment de la collaboration, en fait, avec d'autres journalistes, avec d'autres médias, parce que j'ai l'impression, en fait, de contribuer justement au monde que je souhaite, en fait. C'est-à-dire, j'essaie de pratiquer et de faire ce en quoi je crois. C'est-à-dire, je crois voilà, à des relations qui sont plus collaboratives, je crois à des écosystèmes qui se rendent service, je crois qu'on encaisse mieux les chocs aussi, et le Covid l'a montré, quand on est entouré de gens qui nous aiment, et ça vaut aussi pour les relations professionnelles. C'est-à-dire que vraiment, être dans cet écosystème où on peut se citer les uns les autres, où on peut se mentionner, parce qu'en fait, moi, il y a des médias que j'adore, que je cite tout le temps. Par exemple, sur la charte, on a travaillé avec le Média Reporter, on a travaillé avec Climax, La Relève et la Peste, on a travaillé avec Blast, Social Terre, bien sûr, donc plein de médias, en fait, comme ça, et après, des journalistes de grands médias. Et ces gens-là, en fait, ils sont très précieux pour moi. J'ai vraiment envie qu'on ait de très bonnes relations, parce que je pense qu'on est plus fort quand on est ensemble, quoi. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai, quoi. On n'aurait jamais réussi à faire la charte et à avoir une centaine de médias, dont des super grands médias comme 20 Minutes, Mediapart, qui ont signé, si on n'avait pas eu cette solidarité. Donc cette solidarité, cette vision-là de relations collaboratives, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière et j'ai envie de continuer à instiller ça dans l'écosystème.
Ouais, je suis d'accord avec ça, c'est super important. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres et ta vision des médias aussi. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ? Alors je sais que dans une aventure, il y a plein de rencontres, mais est-ce que tu peux m'en citer une en particulier ?
Je vais te partager pas une rencontre directe, mais un courrier de lecteur que j'ai reçu. Je sais pas si ça marche dans ta catégorie, mais c'est quelque chose que j'ai envie de te partager.
J'accepte.
parce que des rencontres, j'en fais tous les jours et c'est à chaque fois des gens extraordinaires. Là, c'est un courrier de lecteur qu'on a reçu il y a quelques semaines à Vers. Donc, on peut répondre à la newsletter. Par exemple, si tu réponds, on va recevoir ton mail. Généralement, on les lit et on essaie de répondre. Et c'est un lecteur qui nous a dit... il nous a envoyé en fait un fichier Excel de tous les titres de Vers. En fait, il se trouve que Vers, on fait des jeux de mots dans tous les titres et on est très connu pour ça. Il y a des gens qui nous lisent pour ça. Et lui, il a dit non, mais je suis pas intéressé par le contenu de votre newsletter. Juste, je suis intéressé par les jeux de mots. Et du coup, il nous a envoyé sa compile des meilleurs jeux de mots de Vers. Et c'était un texte, mais genre trop marrant. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit bah ok, ce lecteur probablement qu'il en a rien à faire de l'écologie, qui d'ailleurs il ne lit pas, etc. Mais j'ai espoir, en fait, avec cette rencontre totalement marrante par écrit, j'ai espoir qu'un jour, il en vienne à ouvrir nos mails et à s'éduquer, en fait, sur l'écologie, à se nourrir des contenus. Et je pense qu'il y a la manière, en fait, dont on essaie de le faire avec ce ton humoristique, notamment dans les jeux de mots. Je pense que ça permet à des gens qui sont assez éloignés de ces sujets-là d'en venir, justement, aux questions écologiques. C'est-à-dire, ils vont se dire, bah, c'est un peu moins chiant que de lire des articles hyper formels. Là, le fait qu'il y ait des accroches souvent assez bien foutues, ou en tout cas, on essaie bien de travailler le style, ça permet d'être fun, en fait, parce qu'on peut parler de ces questions-là de manière fun. On n'est pas obligé d'être hyper plombant. On peut avoir un ton qui est joyeux, on peut avoir un ton qui est drôle. Et ce n'est pas le cas dans tous les articles, bien sûr. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses qu'on a à traiter qui sont en profondeur. Mais ce courrier de lecteur m'a rappelé que l'humour, c'était super important pour essayer de toucher les gens.
Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je pense que c'est important d'être capable de traiter des sujets sérieux sans se prendre forcément au sérieux, tu vois. Et c'est un élément de différenciation, je pense, important chez Vert. Et même sur la baseline Vert, le média qui annonce la couleur, déjà, je trouve ça... Déjà, tu vois, tu sais où tu arrives, en fait.
On annonce la couleur dès le slogan, effectivement, et on essaie de le faire dans toutes les newsletters. Ouais.
Exactement. La deuxième question, c'est: est-ce que tu peux me citer trois personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui? Je sais que les sources d'inspiration évoluent, tu vois, au fil du temps et au fil des années. Les personnes qui nous inspiraient il y a 3 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, etc. Mais est-ce que tu peux potentiellement me parler de trois personnes qui t'inspirent aujourd'hui?
La première personne, c'est une journaliste américaine qui s'appelle Gloria Steinem, qui est une journaliste féministe, dont j'ai lu un super bouquin cet été. Et en fait, dedans, elle m'a vachement aidée, parce que moi, au début, j'avais assez du mal à prendre la parole. Je pense que de base, je suis quelqu'un de plutôt timide. Et en fait, elle m'a complètement libérée cet été. En lisant son bouquin, j'étais hallucinée. Il y avait cette phrase, je vais la dire très mal, et c'est pas du tout la manière dont elle le dit, mais en gros, c'est... quand tu as une conversation avec quelqu'un, donc t'es deux, en fait, il faut laisser écouter 50% du temps et parler 50% du temps pour avoir une relation qui est équitable et égale, en fait. C'est-à-dire que dans une relation, moi, j'avais tendance à beaucoup écouter les gens, etc. Là, en fait, en m'affirmant, en étant beaucoup plus aussi, en assumant ma voix et en assumant les choses que j'ai envie de dire, en fait, je vais réussir finalement à transformer le monde beaucoup plus que je ne le faisais auparavant, parce qu'en fait, auparavant, je gardais beaucoup de choses à l'intérieur. Donc là, les montrer, écrire, parler dans des podcasts ou dans des émissions de radio ou de télé dans lesquelles je suis invitée, c'est aussi assumer cette voix. Et ça, c'est Gloria Steinem qui me l'a appris cet été. Après, je lis pas mal de livres parce que j'ai la chronique littéraire de Vert. Et un des livres qui m'a le plus plu récemment, c'est celui de Myriam Bahafou, qui a été publié chez Le Passager Clandestin il y a quelques mois. Et c'est un livre sur l'écoféminisme. C'est l'écologie mélangée au féminisme, si on veut le penser de manière extrêmement simplifiée, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Et elle m'a beaucoup intéressée, notamment parce qu'elle m'a montré qu'on pouvait être vraiment hyper fun. C'est-à-dire qu'elle est... très extravertie, elle adore les paillettes, elle adore... elle est très, très féminine aussi, même ultra féminine. Et donc, on peut être écologiste et hyper extravertie, hyper extravagante. En fait, c'est juste s'assumer et être bien avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'elle m'a montré, qu'elle m'a appris. Après, dans les rencontres que j'ai pu faire, en fait, c'est vrai qu'il y en a tellement... Des personnes qui m'ont marqué cette année, après ça va être des personnes politiques, par exemple Alexandria Ocasio-Cortez, qui est cette députée américaine qui est absolument extraordinaire, qui est une jeune femme et qui est, mais, tellement forte et je sais pas, elle a une manière en fait d'être, elle aussi d'ailleurs elle est drôle, elle aussi elle porte les choses avec beaucoup de conviction et elle essaie de participer à la transformation du paysage politique. D'amener une voix qui va être très transparente, très forte, très concrète. Et ça m'inspire aussi énormément.
Ok, super, top. On va pouvoir passer à la dernière partie. Juste avant, j'ai une dernière question pour toi quand même, qui me vient en tête. C'est quoi pour toi le plus important quand on crée un média?
Quand on crée un média, je pense que déjà, faut pas, enfin, être seul, c'est difficile. On a vraiment besoin de s'entourer en fait dès le départ, mais je pense que c'est valable pour n'importe quelle aventure entrepreneuriale. Je pense qu'il faut absolument penser son business model en même temps que son produit éditorial. Au début, il y a beaucoup de journalistes qui se lancent tout seuls et qui se disent bah les gens vont me lire parce que j'écris bien. Bah en fait non. Les gens ils vont te lire s'ils te connaissent déjà, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies de la notoriété. Ils vont te lire si l'information elle est bien présentée, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit joli. Ou en tout cas qu'il y ait un graphisme qui aille avec le produit. Ils vont te lire si tu peux en vivre. Donc en fait, ils vont te lire si tu persévères dans le temps. Et pour ça, il faut que tu aies un salaire. Donc en fait, il y a plein d'éléments comme ça de business model d'enrobage du produit éditorial qu'il faut penser. Et je pense que le plus important, et c'est difficile quand on est journaliste parce que c'est pas du tout notre métier, c'est vraiment de penser le marketing et de penser la manière dont on va toucher les gens. Pourquoi est-ce que les gens auraient envie de nous lire, sachant qu'il y a une offre informationnelle qui est énorme sur le marché? Aujourd'hui, on est plutôt face à de trop d'informations que pas assez. Alors, on est face à beaucoup d'informations de très mauvaise qualité, liées au fait qu'il y a beaucoup de contenu gratuit et que les gens payent de moins en moins pour l'information. Mais du coup, on a vraiment besoin ouais, de se lancer en pensant le business model.
Très bon conseil. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, évidemment, tu as le temps d'y répondre. Et pas de piège comme d'habitude, comme au début de cet échange. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux?
Je vois mes potes et je reste pas seule. On va dire que j'ai de la chance parce que je suis très optimiste de nature. Donc j'essaie plutôt d'être dans la joie, de me dire qu'il y a des choses positives, etc. Même si je mets pas sous le tapis les choses négatives, mais voilà, j'essaie de toujours me connecter au plaisir que j'ai de développer vers. En fait, c'est me dire en fait qu'est-ce qui me fait kiffer dans la boîte. Et même s'il y a des choses chiantes, bah, de me laisser des temps quand même pour faire les choses que j'aime. Et en dehors de ça, de continuer à voir des gens, donc voir des potes, de sortir, d'avoir d'autres activités, même si ça, c'est un conseil que je donne, alors que ces derniers temps, j'ai un peu délaissé ces aspects-là. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'en fin d'année 2022, je me suis sentie un peu submergée par mes activités professionnelles, c'est que j'avais moins ces sas de décompression. Donc voilà, l'une des choses, c'est vraiment voilà, d'essayer d'avoir une vie équilibrée, même si ça, c'est l'idéal d'un entrepreneur et qu'on sait que ça, c'est difficilement atteignable. Enfin, ça arrive au bout de quelques années, mais au début, on est pris par l'aventure et par les enjeux aussi, y compris financiers. On a besoin de gagner de l'argent avec notre boîte, de payer les gens, etc. Donc bien sûr qu'il y a une urgence, en fait, à travailler plus. Mais vraiment, là, 2023, avec Lou, on s'est dit qu'on allait essayer de travailler moins. C'est-à-dire de réduire notre temps de travail, déjà de rester sur 5 jours de travail au lieu de 6, par exemple, c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on a besoin en fait d'avoir d'autres activités, de faire du sport, d'écouter de la musique, de lire, de kiffer tous les différents aspects de nos vies et pas seulement de rester dans son business, même si on pourrait y passer absolument l'entièreté de nos journées et de notre vie, quoi.
Je comprends totalement. Est-ce que tu as un livre à me conseiller?
Alors dernièrement, j'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelle Plutôt nourrir de Clément Auzé et Noémie Calley. En fait, c'est un livre qui a un récit un peu de vie sur une éleveuse, donc Noémie Calley, qui est une ancienne, voilà, qui a vécu dans différentes villes internationales, issue de Sciences Po, donc voilà, très très éduquée, tout ça. qui, pour des raisons de santé, part vivre dans le Gers et elle part vivre élever des porcs. Et en fait, c'est assez incroyable parce que ce bouquin, quand l'attaché de presse me l'a présenté en disant voilà, il y a ce livre sur l'élevage, je me suis dit non, j'ai pas envie de lire ça parce que l'élevage, enfin, c'est pas mon truc, quoi. C'est pour différentes raisons. Par exemple, l'élevage industriel, c'est extrêmement peu écologique. On a plutôt besoin de sortir du modèle de l'élevage industriel. Et en fait, j'ai quand même pris, et ce bouquin, c'est pas du tout sur l'élevage industriel. Au contraire, c'est sur le récit d'une éleveuse qui a une quinzaine de cochons. Donc, elle est vraiment en tout petit comité. Et il est génial parce que, à la fois pour les écolos et pas les écolos, il permet de montrer, en fait, ce que c'est que quelqu'un qui bifurque, qui choisit pour une raison de changer de métier, de changer de modèle, de style de vie, et qui nous explique aussi les difficultés qu'elle traverse. Donc c'est un super livre, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire.
Ok, bah écoute, merci pour les recos, du coup, et je me note ça. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ?
Alors, je vais te parler de la série de Cyril Dion, Un monde nouveau, qui est sorti sur Arte. Donc c'est 3 épisodes de 52 minutes. Et en gros, c'est sur comment on lutte. Donc, il y a plein d'exemples de lutte vers un monde meilleur, finalement, donc de gens qui s'engagent. Enfin, le premier épisode, c'est s'engager. Et ensuite, c'est aussi sur des solutions qui sont proposées dans le monde entier pour mieux se nourrir, mieux se loger. Et voilà, tout un tas de séquences qui sont super intéressantes. Donc, je te recommande fortement ces 3 volets en accès libre sur Arte.
Ok, bah écoute, je me le note aussi. Et ma dernière question pour cet échange, et que je pose à chaque fois, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ?
Une entrepreneuse ou un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va avoir à cœur de développer une nouvelle entité, une nouvelle organisation donc qui est une entreprise, et qui va faire ce chemin en fait de créer quelque chose de nouveau. Donc il y a effectivement l'idée de nouveauté. Et qui est capable de traverser les épreuves. C'est un peu une initiation, un récit initiatique finalement. Il y a des difficultés, il y a des choses belles, et l'entrepreneuse, l'entrepreneur prend son bâton de pèlerin et va finalement traverser toutes ces épreuves-là pour aboutir en fait à... Alors, ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas vraiment de dénouement puisque tout est toujours en cours, mais c'est un personnage qui doit concilier sa vie professionnelle, sa vie privée, qui doit développer tous les aspects de son entreprise. Donc, il y a une vision aussi qui est très transversale, qui fait tous les métiers différents. Je dirais que c'est un peu une entrepreneuse, un entrepreneur, c'est un peu le couteau suisse contemporain de l'entreprise, quoi. Il va être le couteau, la fourchette, même les petits accessoires dont tu sais même pas à quoi ça sert sur le couteau suisse, tu vois, genre le petit tire-bouchon ou le petit cure-dent, genre... En fait, il est tout à la fois. Et ce que je recommande, c'est de pas oublier que nous, on peut faire tous les sacrifices parce que c'est notre boîte, mais on doit pas faire reposer sur les personnes avec qui on travaille les angoisses ou faire trop travailler les gens parce qu'en fait... Ça va nuire à notre entreprise, à nous. Enfin, moi, j'ai travaillé dans les conditions de travail, donc c'est super important pour moi vraiment de le dire. Ouais. C'est que les gens avec qui on travaille, aussi horizontal que soit notre organisation, ils sont salariés de la structure. Donc, en fait, c'est un contrat de travail et ils ont des horaires, ils ont des responsabilités qui sont attenantes à leur salaire et en fait, il ne faut pas trop leur en demander. Nous, on peut faire les sacrifices, on peut bosser 24 heures par jour parce que la structure, elle nous appartient et à nos associés. Mais c'est pas le même statut et c'est pas la même chose que d'être salarié et associé, quoi. Ça, faut bien faire la différence.
Ouais, ça, c'est extrêmement important, effectivement. Ouais. Ça va être un bon moyen de conclure cet échange. Ça sera parfait pour les mots de la fin. Merci beaucoup, Juliette, pour cette petite heure à discuter avec toi. J'espère que ça t'a plu.
Ça m'a énormément plu. Merci beaucoup, François, pour l'invitation.
Et je te souhaite plein de réussite pour cette année 2023. Et je te dis aussi bravo pour tout ce qui a déjà été fait. C'est très, très fort ce que vous avez fait. Et je pense que c'est important de le rappeler. Créer un média, c'est difficile. Créer un média sur l'écologie, c'est encore plus difficile. Donc forcément, là, vous avez matché plein de difficultés et vous avez réussi déjà à faire quelque chose d'assez génial. Donc bravo et lâchez rien et continuez sur les prochains mois et les prochaines années. J'ai hâte de voir la suite.
Bah, merci beaucoup pour tes encouragements et puis au plaisir de te retrouver, de t'écouter, surtout dans les prochains épisodes.
Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.